De retour, et là, on se fait plaisir, nous recevons notre collègue gradué de Canal M, animateur de l'émission « Ça me regarde » à Ami Télé, à laquelle nous avons le plaisir de participer à l'occasion, chroniqueur au sport à l'émission « Dessine-moi un matin » à Radio-Canada, l'animateur Kevin Breton. Bonjour, Kevin.
Bonjour, François.
Et on pourrait se parler de quelques-unes de toutes ces facettes de ta carrière. Mais aujourd'hui, on va parler de autre chose en plus, avant d'aller plus loin, parce que c'est vraiment, en fait, quelque chose que vous avez créé de A à Z, en grande partie. Vous avez été le concepteur, réalisateur, tout ça, animateur d'une série de podcasts.
Oui.
De balado.
Exactement. Le balado rare, la loterie génétique. Excusez-moi, je suis en train de rentrer chez nous avec mon chien. Oui, donc c'est un balado qui est disponible depuis le mois dernier sur la plateforme de Radio-Canada Audio. Puis, comme tu l'as dit, François, c'est une idée qui origine de moi. Donc, c'est vraiment mon intention de faire un balado qui portait proprement sur les maladies rares ou orphelines, comme moi j'ai.
Ben c'est ça exactement. Tu vis avec une maladie rare et ça a toutes sortes de conséquences et en plus, ça amène des réflexions.
Exactement. Donc, moi, ma maladie, c'est le nanisme dystrophique. Donc, pour bien placer les gens, ça, c'est une des quelques 7000 ou 8000 maladies rares répertoriées à travers le monde. C'est comme elles sont rares, par définition, elles sont un peu plus difficiles à identifier, évidemment. Donc, on ne s'entend pas sur le nombre exact. On dit qu'au Québec, il y aurait environ 700 000 personnes. Ça, c'est l'équivalent de la ville de Gatineau, à peu près. De personnes qui auraient une maladie rare. Et au Canada, c'est entre 3 et 4 millions de personnes qui en auraient une ou l'autre de ces 8000 versions. Donc, c'est rare, mais c'est pas si rare que ça.
Ben oui, voilà, c'est ça qui est un... Faut se comprendre. C'est pas une maladie rare dont 3 ou 4 millions de personnes en sont atteintes à travers, mais ce sont des milliers de situations... Ouais. Qui mise dans le même lot, ben là, au ouais. bout du compte, ça fait pas loin de 8% de la population au Québec. Ouais. C'est pas négligeable. Et dans ce sens-là, les maladies rares comme univers, c'est aussi important que beaucoup d'autres maladies dont nous entendons souvent parler autour de nous.
Exactement. Puis, tu sais, c'est pas, mettons, comme... C'est par exemple d'autres maladies très, très fréquentes comme le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson, qui sont très fréquentes, mais qui ont, disons, une particularité vraiment propre à elles. Là. Elles ont toutes oui. à peu près la même origine, les mêmes symptômes, disons. Là, quand c'est une maladie rare, ben il y a vraiment une pluralité de manières différentes de les vivre. C'est-à-dire que ça peut aller d'une maladie très, très bénigne à une maladie mortelle, une maladie dégénérative ou une maladie
aussi.
qui est stable, tu sais, comme la mienne. Ça peut être des maladies qui affectent les yeux, la tête, le cœur, la tête.
Qui apparaissent, une maladie qui apparaît dès la naissance ou à l'âge adulte. Une maladie au sujet de laquelle les parents reçoivent un diagnostic quand l'enfant est très jeune et où d'autres fois, c'est rendu à l'âge adulte que la personne mm-hmm. qui vit avec la maladie rare commence à vivre avec des symptômes, consulte, et là, il y a une errance diagnostique, là, souvent qui peut être très longue.
Oui, on a vraiment placé un épisode complet là-dessus, d'ailleurs, parce que, bon, moi, il n'y avait pas photo à la naissance, là, c'était clair que il y a quelque chose qui clochait avec moi, dans le sens où je suis plus petit, j'ai les pieds, les doigts croches, donc on a assez rapidement ouvert le livre de médecine à la bonne page pour dire, OK, c'est probablement telle maladie rare, le nanisme dystrophique. Mais dans d'autres cas, les symptômes sont beaucoup plus subtils, moins apparents, fluctuent à travers le temps, c'est encore moins connu, moins commun. Donc là, on s'en rend pas compte tout de suite. Les personnes qui ont une maladie rare X ou Y vont bien voir qu'il y a quelque chose qui cloche avec leur corps, mais ne sont pas capables de mettre le doigt sur le bobo. Vont se faire balancer d'un médecin de famille à un autre, d'un spécialiste à un autre.
Vont essayer toutes sortes. Ben, ils vont recevoir des diagnostics fautifs, mais de bonne foi, là. Et vont essayer toutes sortes de remèdes ou de façons de traiter qui, évidemment, ne traitent rien ou même peuvent causer des effets secondaires ennuyeux.
Oui. Et très souvent aussi, c'est ce qu'on a appris au fil des discussions avec des médecins, des spécialistes, des généticiens, des patients, c'est que le réflexe qu'on a beaucoup, bon, c'est une bonne chose quand même là, qu'on parle plus de santé mentale aujourd'hui, puis qu'on soit plus conscient des effets que des effets psychiatriques. Mais c'est devenu aussi une espèce de raccourci.
Ah oui, c'est dans la tête.
Expliquer des mots en disant, ben c'est dans la tête de la personne.
Voilà, là, là. Oui, oui. La fibromyalgie a longtemps été dans la tête des gens comme ça.
Exact, exactement. C'est un bon exemple, ça. Puis il y en a d'autres aujourd'hui, des spécialistes qui nous disent, ben des maladies qui sont aujourd'hui qualifiées comme étant seulement dans la tête de la personne, ou tu sais, psychosomatique. Mais que dans 10-15 ans, on va réaliser, ben non, c'est comme bien d'autres maladies, bien d'autres pathologies, il y a véritablement des causes qu'il faut traiter. Donc, si on a des exemples dans notre balado d'une jeune fille qui a été en asile psychiatrique pendant plusieurs mois parce qu'on ne croyait pas, c'est bon, elle s'évanouissait fréquemment, elle avait des problèmes d'alimentation, et on a réalisé finalement qu'elle avait le POTS, qui est une maladie qu'on peut définir comme étant allergique à la gravité. Oh. Donc, si elle restait trop longtemps en posture debout...
Son équilibre était rompu, puis elle tombait.
Ouais, des palpitations cardiaques, l'oxygénisation.
Dans le sang.
Je vais l'expliquer, ouais. Évidemment, là, mais ça, le résultat net, le résultat des courses, c'est qu'elle s'évanouissait. Mais il y a des gens qui pensaient que c'était dans sa tête.
Oui, ben ça faisait un peu roman 19e siècle. Là. Dès que ça va mal un peu, la dame s'évanouit. Oui, mais c'était pas le cas. Et la recherche pour... Et là, il y a un aspect évidemment commercial. Les sociétés pharmaceutiques qui font de la recherche pour s'attaquer à des maladies vont évidemment cibler leur recherche à des maladies qui, un jour, seront très rentables à soigner. Mais la maladie rare, ce n'est pas le cas. Alors, la recherche tombe un peu à court souvent.
Ben oui, parce que, tu sais, évidemment, s'il y a 7000 ou 8000 maladies rares, puis il y a, c'est l'exemple que le philanthrope Bill Gates donne dans un de ses TED Talks, puis on l'a repris dans un de nos épisodes, c'est que c'est beaucoup plus rentable financièrement pour une compagnie pharmaceutique d'investir d'argent dans la calvitie.
Ou le cholestérol ou des choses comme ça. Parce
ben,
que
c'est ça. Voilà. Tu touches beaucoup de monde, souvent des gens qui sont en moyen aussi, parce que je veux dire, leur situation n'est pas handicapante, puis ils peuvent continuer à travailler, puis se payer des traitements. Donc, c'est beaucoup plus payant financièrement d'investir dans la recherche dans ça que dans des maladies très, très, très pointues qui ne touchent pas beaucoup de gens. Donc, c'est difficile de financer les recherches. Mais il y a quand même des exemples par le passé, comme la maladie de Lou Gehrig, la SLA.
Oui.
Je ne sais pas, toi, François, si tu t'étais aspergé d'un bol d'eau en...
Non, 2000... dans le temps du... non, je ne faisais pas ça. Moi, je me plongeais dans un bain de glace, mais non. C'était presque pareil.
Oui, c'était en 2015.
Oui. Le Ice Bucket Challenge, là, oui.
Ouais.
Ouais, c'est quand même plus intelligent faire ça que de bouffer des... Du savon à linge, oui.
Ouais, il y a des buzz sur Internet qui sont mieux que d'autres parce que lui, il s'était promassé de l'argent pour la SLA, la maladie de Lou Gehrig. Puis, ça a vraiment marché. Là, ça fait 10 ans, on n'a pas trop entendu parler, mais ça avait été là, des millions et des centaines de millions même amassés à travers le monde et qui s'est répercuté dans différents laboratoires de recherche. Et aujourd'hui, ici même au Canada, on est très près de trouver non pas une cure, non pas un remède, mais un médicament qui viendrait vraiment soulager, freiner les symptômes et redonner une qualité de vie des personnes qui ont la SLA. Donc, c'est merveilleux et ça montre que, tu sais, avec de l'argent, évidemment, c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir un Ice Bucket Challenge pour 7000 maladies rares, mais ça montre qu'il y a moyen quand même d'arriver à des résultats concrets.
Que ce soit par des fondations, par des initiatives... de socio-financement, ainsi de suite. Il faut trouver des façons de financer à but non lucratif, finalement. Des recherches qui ont une portée sur la vie de au bout du compte, de milliers de personnes. Parce que les raretés là, sur une grande population, éventuellement, ça finit par faire du bien. Dans les balados, Kevin, il est question aussi de d'autres aspects de l'existence, entre autres de la parentalité.
Oui, c'est le point de départ du balado, c'est un petit peu celui-ci, à savoir, moi, j'ai 33 ans, je serais en âge d'avoir des enfants si je voulais en avoir, si j'en ai un jour avec ma conjointe, puis moi, mes parents n'ont pas la même maladie que moi, donc s'impose aussi la question de savoir si j'ai un enfant, si je est-ce que je transmettrais nécessairement mon gène? T'sais, puis est-ce que ce gène-là se transformerait nécessairement en handicap? Puis c'est quoi les risques? Puis est-ce que c'est même correct d'employer le mot risque?
Oui, ben c'est plutôt probabilité.
Oui, c'est ça, parce que tu sais, c'est pas un mauvais sort. Je condamnerais pas une personne à vivre avec une maladie mortelle ou très, très souffrante. Ça reste une condition avec laquelle je vis très bien depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est même correct d'avoir peur de transmettre ce gène-là? Il y a toute une réflexion éthique, philosophique, même, oui, je dirais, autour de ça, qui accompagne le premier épisode, qui sert vraiment de point de départ pour les six épisodes.
Et dans un autre épisode, tu parles du décès de quelqu'un qui était près de toi, un de tes amis.
Ouais.
Parce que souvent, malheureusement, les maladies rares s'accompagnent d'une dégénérescence ou souvent d'une espérance de vie écourtée. Alors là, il y a comme vivre avec une épée de Damoclès.
Oui. Puis si c'est soit que c'est une maladie qui est dégénérescente ou encore que c'est une maladie qui est très sournoise ou tout va bien, tu sais, ça semble bien se passer. Puis c'est comme, mettons, la fibrose psychique et là, subitement, il y a quelque chose, on commence à avoir un épisode, ça va moins bien.
Oui.
Puis ça entraîne malheureusement la mort. Tu sais, fait que le premier épisode est quand même assez lumineux, je dirais, là, quand on parle de la transmission, la vie, tout ça. Mais je voulais quand même montrer l'envers de la médaille aussi en disant, ben, tu sais, des maladies rares, ça reste quelque chose qui peut être très lourd à porter.
Oui.
Et souvent, un fardeau qu'on porte un petit peu dans l'anonymat parce que c'est un handicap invisible. Moi, dans le cas de mon ami qui est décédé, ça fait 10 ans septembre dernier. Ben, on ne savait pas qu'il y avait une maladie rare, il ne nous en parlait pas, c'était la maladie Ehlers-Danlos. Et c'est comme après qu'on a réalisé que, tu sais, comme quand il arrivait souvent en béquille à l'école avec des écharpes ou en boitant, il y avait des bleus, ben, c'est pas parce qu'il s'est battu, c'est parce que sa maladie affichait l'élasticité de sa peau, puis il était plus susceptible d'avoir des ruptures, d'avoir des ecchymoses,
ouais, ben,
etc.
Lui avait appris à vivre avec ça, mais c'est après la mort que souvent on dit « Ah, mon Dieu, si j'avais su ». Avant, pour terminer, Kevin, je m'en voudrais de ne pas saluer l'excellent travail dans la couverture des Jeux olympiques et paralympiques. Et encore une fois, tu seras à la tâche en 2024.
Oui, exactement. Le rôle exact reste à annoncer, mais j'espère reprendre le micro pour la description en athlétisme en pelouse. Je l'avais fait à Tokyo, j'avais beaucoup aimé ça. Puis pour les Paralympiques, ben, le rôle reste à annoncer, mais j'ai bien hâte de vous retrouver exactement pour vous en parler.
On te le souhaite parce que ça fait partie de la grande fenêtre qu'il faut ouvrir. Merci beaucoup, on se revoit bientôt.
Merci François, merci tout le monde.